Accent d'Europe, Catherine Roland. Please go home, please go home, you are all terrorists. Don't come back until we make a twist. Bonjour à tous. Le gouvernement hongrois aurait-il de l'humour? Alors que pas un jour ne se passe sans une diatribe contre les migrants, le ministre de l'économie hongrois jette un pavé dans la mare. Il propose maintenant de faire appel à l'immigration pour compenser l'expatriation de ses concitoyens ces dernières années. Florence Labruyère nous appelle de Budapest.
Cela fait un an et demi que le gouvernement de droite populiste de Viktor Orban mène une campagne contre l'immigration. Avec des slogans du style « Pas question que des immigrants viennent prendre le travail des Hongrois ». Aux surprises, voilà que le ministre de l'économie, Mihály Varga, décide d'aller contre le vent. Dans une interview à un hebdomadaire, il propose que la Hongrie fasse appel à de la main-d'œuvre européenne ou venant de pays tiers. Alors que les autres membres du gouvernement répètent à longueur de journée que les migrants sont des terroristes potentiels, le ministre, lui, voit dans l'immigration une chance pour l'économie. Il faut dire que ce technocrate, long comme un jour sans pain, est peut-être gris et ennuyeux, mais c'est un homme modéré et rationnel. La Hongrie connaît une forte pénurie de main-d'œuvre. Il manque au moins 50 000 techniciens dans l'industrie, souligne le ministre. Un quart des entreprises a du mal à recruter dans tous les secteurs, mécanique, électronique, informatique ou restauration. S'ajoute à cela le fait que les couples font peu d'enfants et qu'un demi-million de personnes sont parties travailler à l'étranger, car en Hongrie, les salaires sont très bas. Un cuisinier gagne 50% de plus s'il part travailler en Autriche. L'immigration est peut-être une solution, mais une immigration sélective. Nous inviterons les ressortissants de pays qui ont les mêmes traditions culturelles que nous, dit prudemment le ministre. Des propos un peu nébuleux, mais en tout cas, c'est la première fois qu'un membre du gouvernement suggère d'avoir recours à la main-d'œuvre étrangère.
Des migrants, des réfugiés qui tentent toujours de passer par l'Europe centrale et les Balkans malgré les multiples murs et clôtures. Si en mars dernier, les pays de l'Union européenne ont décidé de fermer le corridor humanitaire suite à une décision de l'Autriche, les passages continuent. Dans les Balkans, ils ont même augmenté depuis l'été dernier. Et c'est le reportage de Philippe Bertinchamp.
Quand est-ce que les frontières vont s'ouvrir? Des gens vont venir, pas de problème. Ce n'est pas difficile, c'est une question de chance.
It's up to chance.
Si t'as de la chance, tu passes. Si t'as pas de chance, tu ne passes pas. Moi, j'ai essayé 10 fois, mais je ne suis pas passé.
Ahmad a 17 ans. Il est ce qu'on appelle un mineur non accompagné. Il vient d'Afghanistan et il est à Belgrade depuis un mois. Il dort dans un parc dans le centre-ville. Ahmad est arrivé par la Bulgarie, où il a passé 2 ans en prison pour avoir traversé la frontière illégalement. Depuis la Serbie, il a tenté le passage vers la Croatie et la Hongrie, mais en vain. À présent, il espère poursuivre sa route en se cachant dans un conteneur.
Oui, un conteneur, ou bien dans un train. Je vais me cacher sous un train. Je sais que je risque la mort. Si je fais la moindre petite erreur, je vais mourir.
Stéphane Moissin est le coordinateur régional de Médecins Sans Frontières.
Il y a encore des gens qui arrivent, des migrants qui passent par la Macédoine et la Bulgarie. Donc là, récemment, dans les 2 dernières semaines, on a vu un peu plus de nouvelles arrivées dans le centre-ville de Belgrade. On va pas dire que le chiffre est énorme, hein. On parle de plusieurs familles, peut-être jusqu'à 200 personnes par jour qui arrivent à rentrer depuis la Macédoine et la Bulgarie.
Macédoine, Bulgarie, Serbie, Hongrie, Croatie, Slovénie, la route des Balkans a officiellement fermé en mars dernier. En réalité, les passages n'ont jamais cessé. Bien sûr, le nombre d'arrivées n'a plus rien à voir avec la grande vague de l'an dernier, quand des centaines de milliers de migrants et réfugiés ont emprunté le corridor humanitaire. Il n'empêche que depuis cet été, les observateurs ont constaté une recrudescence des arrivées depuis la Grèce, où les camps sont déjà surpeuplés. Dans la région, les gouvernements sont sur la défensive et ont renforcé la sécurité aux frontières. Sarah Kekouche travaille au Centre des études pour la paix à Zagreb. La Croatie compte actuellement environ 500 réfugiés répartis dans 2 centres d'accueil. La plupart sont arrivés par la route des Balkans quand elle était encore ouverte. Mais ces derniers temps, beaucoup de personnes ont aussi été renvoyées de pays de l'Union européenne conformément au règlement de Dublin. Après les élections du 11 septembre, le parti conservateur Radze grand vainqueur du scrutin, pourrait bien se rapprocher du groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, qui prône la plus grande fermeté à l'encontre des réfugiés.
La Croatie a commencé à suivre les directions d'autres pays de notre entourage et il me semble très évident que peut-être dans le cas de nouvelles vagues, ils vont faire comme les autres. Alors si les autres décident de renforcer les frontières, d'envoyer les forces militaires aux frontières, etc. Il me semble que Croatie va faire la même chose, mais j'espère que ça ne va pas arriver.
Plus au nord, la Slovénie est elle aussi sur ses gardes. Fin juillet, le pays a enregistré 650 demandes d'asile, deux fois plus que d'habitude. Katarina Bervar-Sternad est la directrice de l'ONG PIC, à Ljubljana.
La Slovénie est confrontée à une augmentation des demandeurs d'asile. Depuis cet été, le nombre d'arrivées et de demandes d'asile a atteint son plus haut de l'histoire du système d'asile slovène. Nous avons aussi observé que des demandeurs d'asile essayaient d'entrer sur le territoire et le plus souvent avec succès, non seulement par les frontières terrestres, mais aussi par la mer, par exemple dans des bateaux cargo venus de Turquie.
Le problème est que, pour les réfugiés, le seul moyen légal de pénétrer dans l'espace Schengen, c'est par la Hongrie. Or, depuis l'automne dernier, le pays s'est barricadé derrière une barrière de fils barbelés et ne laisse entrer que 30 réfugiés par jour. Autant dire que les listes d'attente en Serbie, au pied de la clôture, sont longues.
On ne peut pas dire que la route des Balkans est fermée ou que la route des Balkans est morte, parce que autour de nous, hein, tu vois, de ce côté, on voit une centaine de migrants qui sont encore dans le centre-ville, en dehors des camps, et qui sont certainement candidats à une sortie du territoire d'une façon ou d'une autre. Les camps d'asile, aussi bien en Macédoine, en Bulgarie ou en Serbie, on arrive à saturation, ou en Serbie, on est déjà en saturation. En Bulgarie, on peut dire qu'on a un risque d'arriver à saturation. Et l'hiver est en train de venir.
Dimanche 2 octobre, la Hongrie organise un référendum sur le plan de répartition des réfugiés dans les pays membres de l'Union européenne. Pendant ce temps, l'Europe érige des murs un peu partout à ses frontières. Et, pour continuer leur route, les réfugiés sont contraints d'avoir recours à des réseaux de passeurs, toujours plus chers et dangereux.
Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit.
Eh oui, le tabac, responsable de 70 000 décès par an. Les études sont implacables et pourtant on continue de fumer en France. Après l'introduction du paquet de cigarettes neutres, le ministère de la Santé annonce pour janvier une nouvelle mesure, la hausse de 15% du prix du tabac à rouler, un produit jusque-là moins cher que les cigarettes en paquet et qu'achètent les jeunes. En fait, tous les pays européens sont engagés dans la lutte anti-tabac. Avec nous, Daniel Vigneron de MyEurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour. Bonjour Catherine.
Alors, comparé à leurs voisins, les Français restent-ils de gros fumeurs, Daniel ?
Sans conteste, la réponse est oui. Selon les données très complètes de l'Eurobaromètre publié en mai 2015 et portant sur l'année 2014, la France se classe quatrième sur les 28 pays de l'Union en termes de nombre de fumeurs, simplement devancée par la Grèce, la Bulgarie et la Croatie. Ainsi, 32% des Français sont fumeurs contre 29% des Espagnols, 27% des Allemands, 22% des Britanniques et 21% des Italiens. Le pays le plus vertueux d'Europe est de loin la Suède, où ceux qui fument ne sont plus que 11%. En outre, l'évolution du tabagisme en France n'est guère encourageante, puisque le pays compte 14% de fumeurs de plus qu'en 2012 et seulement 4% de moins qu'en 2006, alors qu'en moyenne, l'Europe a vu baisser de 18% le nombre de ses fumeurs depuis 10 ans.
Pourquoi cette mauvaise performance ? Cela veut-il dire que les cigarettes ne sont pas assez chères chez nous ?
Absolument pas, au contraire. Selon la Tobacco Manufacturers Association, seul le Royaume-Uni et l'Irlande ont en 2016 un prix moyen du paquet plus élevé qu'en France à plus de 10 euros. À 7 euros le paquet, la France se classe 3e sur 28 en termes de prix. Chez nos voisins immédiats, ce prix oscille entre 5 et 6 euros le paquet et il tombe même à 3 euros, 3,50 euros à l'est de l'Europe.
Mais alors peut-être que les interdictions de fumer sont moins respectées dans l'Hexagone.
Non. Elles sont tout d'abord parmi les plus généralisées en Europe et ont été mises en place en ce qui concerne les cafés-restaurants il y a 8 ans. Au niveau du respect des interdictions, la France est bien placée. À cet égard, l'Eurobaromètre a interrogé les clients des restaurants de tous les pays de l'Union. Dans quelques pays, un grand nombre de clients indiquent avoir été exposés au tabac dans les restaurants malgré l'interdiction de fumer. C'est par exemple le cas de 72% des Grecs, de 59% des Roumains et également de 44% des Autrichiens, pays où les interdictions sont récentes, partielles et donc mal respectées. En revanche, seuls 9% des clients de restaurants en France disent avoir été exposés. C'est à peine plus qu'en Italie, 8%, ou qu'en Allemagne, 7%. Comme on s'en doute, quasiment personne ne s'est dit exposé en Suède.
Les fumeurs français fument-ils autant que les autres, Daniel ?
Avec 13 cigarettes en moyenne par jour, ils fument un peu moins que la moyenne européenne de 14,4 cigarettes. C'est également un peu moins que leurs voisins allemands, britanniques ou italiens. Et nettement moins que les Autrichiens qui fument leur paquet quotidien. Cela dit, ces chiffres élevés ne font que révéler une réalité commune à toute l'Europe. Les gens qui continuent de fumer en 2016 sont de gros fumeurs. Les fumeurs occasionnels ont pratiquement disparu.
Finalement, Daniel, comment expliquer que les Français fument plus que leurs voisins ?
À défaut d'explications scientifiquement avérées, on peut identifier une corrélation entre démographie et tabagisme, dans la mesure où les populations jeunes ont tendance à fumer davantage que leurs aînés. C'est manifeste en France où 40% des 16-25 ans sont fumeurs, ce qui est plus qu'ailleurs en Europe. Or, cette tranche d'âge représente 12% de la population française, alors qu'elle ne représente que 9,9% de la population italienne et 6,5% de la population allemande. Par ailleurs, on sait que les jeunes consomment plus, pour des raisons de prix, les cigarettes à rouler. Alors que 29% des fumeurs européens ont recours régulièrement ou occasionnellement à ce tabac en vrac, les fumeurs français sont 44% à l'utiliser, avec une forte prévalence des moins de 25 ans. On comprend mieux la décision de Marisol Touraine de taxer davantage le tabac à rouler. Elle cible les jeunes fumeurs qui sont largement à l'origine des mauvais résultats français en termes de tabagisme.
Merci Daniel, à la semaine prochaine.
À bientôt. Bientôt Catherine.
C'est le quartier à la mode de Berlin, Neukölln, qui aimante les touristes autour de l'Unterkanal, avec ses nombreux cafés, ses endroits pour faire la fête. Mais c'est aussi un quartier pauvre, avec près d'un quart d'étrangers, un lieu de contraste traversé par la Sonnenallee, la Grande Avenue. L'auteur berlinois Jörg Sundermeier consacre justement son dernier livre à la Sonnenallee et à ses habitants. Julien Michaussi l'a rencontré.
J'ai emménagé à Neukölln en 2003 parce que les loyers étaient encore très intéressants à l'époque. Avant, j'habitais dans le quartier plus chic de Prenzlauer Berg. Personne ne peut le croire aujourd'hui, mais j'ai trouvé un appartement de 40 mètres carrés avec balcon pour 145 euros par mois seulement, toutes charges comprises.
Jörg Sundermeier reçoit dans son bureau de la maison d'édition berlinoise Verbrecher Verlag, une grande pièce avec une belle hauteur de plafond remplie de livres encore sous plastique et de cartons non déballés. Journaliste, auteur passionné de Berlin, il a décidé de consacrer son dernier ouvrage à l'une des rues mythiques de la capitale allemande, la Sonnenallee. Plus qu'une rue, une avenue longue de 5 km qui traverse le quartier de Neukölln, 330 000 habitants, plus de 160 nationalités, et un concentré de l'histoire de Berlin avec notamment une partie de la Sonnenallee qui se trouvait dans l'ancien Berlin-Est.
Il y a un melting pot fascinant à la Sonnenallee. Pour une raison simple, les personnes, soi-disant les plus opposées, les cultures à première vue les plus différentes les unes des autres, ne se trouvent pas de l'autre côté de la rue ou 5 bâtiments plus loin, non. Elles cohabitent dans le même immeuble. Et pour un écrivain, c'est passionnant. D'autant plus que ça ne correspond absolument pas à l'image colportée par les partis d'extrême droite. Cette cohabitation est des plus pacifiques.
Avant la réunification, avec la proximité du mur et la peur de se retrouver aux premières loges du conflit de la guerre froide, les prix des loyers y étaient particulièrement faibles. Un marché de l'immobilier qui a attiré de nombreux migrants venus de pays arabes, une tradition poursuivie par les réfugiés, notamment syriens, qui viennent y manger, boire un café ou faire leurs courses dans les nombreux supermarchés arabes. Si bien que les médias allemands nomment désormais la Sonnenallee l'Arab Street de Berlin.
C'était déjà le cas il y a plus de 20 ans quand je suis arrivé à Neukölln. Une grande partie de la Sonnenallee appartenait à des familles venues du Liban, de Palestine ou encore d'Arabie Saoudite. Des gens qui avaient gagné leur vie ici avec des restaurants ou des ateliers de couture et qui par la suite ont acheté des immeubles quand ça ne coûtait rien. Et c'est intéressant de voir que les enfants de ces familles profitent aujourd'hui de ce nouveau Neukölln branché à la mode. Ils ouvrent désormais des clubs et des bars.
Car Neukölln est en pleine mutation, ou du moins sa partie nord autour de la Sonnenallee et de la Hermannplatz. Cafés, restaurants, galeries d'art attirent touristes et jeunes diplômés étrangers. La gentrification bat son plein avec des loyers qui ont augmenté de plus de 80% sur 5 ans. Malgré ces changements, il y a une institution de la Sonnenallee qui résiste, les Späti. Ces épiceries ouvertes jusque tard dans la nuit où l'on y trouve de tout. Tabac, alcool, aliments et même feux d'artifice pour le nouvel an. Des lieux très présents dans le livre de Jörg Sundermeyer.
Ces Spätis sont un lieu de rencontre entre voisins, l'endroit où tout le monde se retrouve. Cela va de la mère de famille musulmane très croyante qui vient y acheter du papier toilette jusqu'au voisin alcoolique qui a besoin chaque jour de ses 10 bouteilles de bière. Et tout ce petit monde se croise au Späti. Et ces épiceries remplissent une fonction majeure, elles créent du vivre ensemble.
Autre personnage central de ce livre qui fait vivre la Sonnenallee par ses habitants, le bus M41 de la BVG, la société de transport berlinois. Une ligne qui dessert la Sonnenallee de bout en bout et dont chaque arrêt offre une photographie instantanée de la sociologie de Neukölln, comme celui de l'une des plus anciennes et plus grandes agences pour l'emploi d'Allemagne.
À cet arrêt, le bus dépose toutes celles et tous ceux qui doivent se rendre à l'agence pour l'emploi et il y reprend ceux qui en sortent et qui, la plupart du temps, ne sont pas plus avancés qu'avant de s'y rendre. C'est un arrêt de bus qui se transforme en concentré de tous les frustrés, ou pour être plus précis, de personnes rendues frustrées par notre société. Un lieu qui est devenu un mythe dans les médias allemands.
Mais avec l'explosion des prix de l'immobilier, Jörg Sundermeyer se demande, comme une grande partie des habitants, combien de temps il pourra y vivre. Et quand on lui demande s'il compte y rester encore longtemps, la réponse ferme fuse.
Aussi longtemps que j'aurai les moyens de payer mon loyer.
Усадьба Ясная Поляна расположена неподалеку от города Героя Тулы.
Здесь жил и работал граф Лев Николаевич Толстой.
Allez, on termine accent avec l'invitation d'Étienne Bouche. Notre correspondant en Russie s'est rendu à Yasnaya Polyana, le domaine de Léon Tolstoï, l'écrivain célèbre, vénéré par les Russes. Ils sont plus de 200 000 à visiter la demeure chaque année.
Yasnaya Polyana a beau se trouver à une dizaine de kilomètres seulement de la ville de Toula, c'est un lieu où règne le silence. Le visiteur pénètre dans un domaine qui semble avoir échappé au temps. Sortis de l'écurie, les chevaux paissent en liberté autour des pommiers. Atmosphère bucolique. Il faut remonter une longue allée de bouleaux pour découvrir la maison de Léon Tolstoï. C'est ici que l'écrivain est né en 1828. Tolstoï et Yasnaya Polyana, c'est un peu comme Voltaire et le château de Ferney. Difficile de se représenter l'un sans l'autre. Tolstoï a vécu sur ce domaine pendant 60 ans. Anna Karénine, Guerre et paix, la mort d'Ivan Illich, il y a écrit ses plus grandes œuvres. En Russie, le statut de l'écrivain est tel que les grands auteurs sont vénérés. Plus qu'un écrivain, Tolstoï est considéré comme un mysliteel, un maître à penser qui a influencé les philosophes du XXe siècle. À Yasnaya Polyana, il crée une école pour les enfants de ses paysans. Il écrit tout en s'occupant lui-même des tâches quotidiennes. Il s'éloigne pendant des heures de son cabinet et marche seul dans la forêt. Tolstoï prône la vie au contact de la nature et le rejet du matérialisme. En allant plus loin dans les bois, les visiteurs peuvent se rendre là où l'écrivain a été enterré. Un lieu qui retient l'attention par sa simplicité. Ni pierre tombale, ni inscription, juste un simple monticule. Tolstoï aimait la nature et la vie, et il ne voulait laisser sur sa terre aucune référence à la mort.
À la réalisation d'Accent, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, les infos.